Suivez Radio Intégration sur Facebook,
X,
Instagram,
YouTube.
Les héros nous apportent l'espoir, le rêve, la force. Chacun de nous a besoin de héros pour vivre, l'enfant pour se construire, l'adulte pour se réparer. La vie est un champ de bataille où naissent les héros qui meurent pour que l'on vive dans un monde de récits merveilleux et terrifiants. Leur épopée me raconte qu'il est possible de s'élever au-dessus de la fadeur des jours et du malheur de vivre. Nos héros nous montrent le chemin tous les jours, espace 21h15, 22h, sur le plateau de Radio Intégration. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes bien sûr très heureux de vous savoir une fois de plus à l'écoute de Radio Intégration dans son émission Héros africains. Aujourd'hui, nous parlerons de Patrice Lumumba, sa jeunesse, sa vie professionnelle, son combat pour l'indépendance, sa brève carrière politique, son assassinat, sa postérité, de l'action de l'ancien colonisateur en pleine guerre froide, de l'enquête pénale, de sa vie familiale et de ses distinctions honorifiques. Et nous aurons bien sûr l'avis de l'expert en la personne de Jean-Claude Djereke. Derrière ce micro de la présentation, je suis Marie-Noëlle Etungu, assistée par Josué Nabral à la technique. Je vous retrouve tout à l'heure.
Radio Intégration.
Radio Intégration.
La voix des communautés.
Patrice Lumumba est un ancien premier ministre de la République démocratique du Congo. De son vrai nom, Elias Okit Asombo, il est né le 2 juillet 1925 à Onalwa et est mort au Katanga. C'est un homme d'État congolais, premier ministre de la République démocratique du Congo, de 1960 à 1964. Patrice Emery Lumumba est né d'une famille de l'ethnie Tetela à Onalwa, territoire Katako-Kombe, au Sankuru, Congo belge. Il fréquente l'école catholique des missionnaires, puis élève brillant, une école protestante tenue par des Suédois. Jusqu'en 1954, année de la fondation d'un réseau d'enseignement laïque et de la première université, la Belgique coloniale n'a que peu développé le système d'éducation entièrement confié aux missions religieuses. L'école ne donne qu'une éducation rudimentaire et vise plus à former des ouvriers que des clercs. Mais Lumumba, autodidacte, se plonge dans des manuels d'histoire. Il travaille comme employé de bureau dans une société minière de la province du Sud Kivu jusqu'en 1945, puis comme journaliste à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, et Stanleyville, Kisangani. Employé de deuxième classe à la poste, période pendant laquelle il écrit dans divers journaux. En septembre 1954, il reçoit sa carte d'immatriculé, réservée par l'administration belge à quelques éléments remarqués du pays. 217 immatriculations en 1958 sur les 13 millions d'habitants. Il découvre en travaillant pour la société minière que les matières premières de son pays jouent un rôle capital dans l'économie mondiale, mais aussi que les sociétés multinationales ne font rien pour mêler des cadres congolais à la gestion de ces richesses. Il milite alors pour un Congo uni, se distinguant en cela des autres figures indépendantistes dont les partis constitués davantage sur des bases ethniques sont favorables au fédéralisme. L'historien congolais Isidore Ndaiwela Aziem précise Lumumba, à cause de son identité de Tetela, avait son électorat naturel dispersé dans l'ensemble du pays, ce qui l'obligeait à jouer une carte nationaliste unitaire. Il ne plaide pas pour une indépendance immédiate, d'autant plus qu'il a pris conscience que les frontières du Congo belge et des colonies françaises, anglaises et portugaises voisines sont arbitraires, fixées par les puissances coloniales, ce qui posera un jour la question de répartir les richesses entre les futurs pays africains indépendants. En 1955, il crée une association APIC, Association du personnel indigène de la colonie, et aura l'occasion de s'entretenir avec le roi Baudouin en voyage au Congo sur la situation sociale des Congolais. Le ministre belge en charge à l'époque de la politique coloniale, Auguste Buisseret, veut faire évoluer le Congo et notamment développer un enseignement public. Lumumba adhère au Parti libéral, parti de ce ministre, et y attire des notables congolais. En 1956, il répand alors une lettre circulaire parmi les membres de l'Association des évolués de Stanleyville, dont il est le président, et dans laquelle il affirme « Tous les Belges qui s'attachent à nos intérêts ont droit à notre reconnaissance. Nous n'avons pas le droit de saper le travail des continuateurs de l'œuvre géniale de Léopold II ». Et en compagnie de plusieurs notables congolais, il se rend en Belgique sur invitation du Premier ministre. C'est à cette époque que Patrice Lumumba écrit un livre sous le titre « Le Congo, terre d'avenir, est-il menacé ?» Dans cet ouvrage, il plaide pour une évolution pacifique du système colonial belge dont il reste partisan. Emporté par l'évolution rapide des événements qui vont mener à l'indépendance, Lumumba ne prend pas le temps de publier ce livre. Le livre paraît à Bruxelles après sa mort. Le combat pour l'indépendance de Patrice Lumumba. Dès à présent. En 1956, il est jugé pour avoir détourné des fonds de compte des chèques postaux de Stanleyville et condamné à un emprisonnement d'un an. Il vit son incarcération comme une injustice puisque, n'étant pas toujours payé, il considère n'avoir que prélevé son dû. Il imputait ses malversations à l'illogisme des Belges. Il imputait ces malversations-là à l'illogisme des Belges qui incitaient les Congolais instruits à vivre comme les Européens sans leur en donner les moyens matériels. Libéré par anticipation, il reprend ses activités politiques et devient directeur des ventes d'une brasserie. En cette même année, il est président de l'Association des évolués de Stanleyville. C'est précisément à cette époque que le gouvernement belge prend quelques mesures de libéralisation. Syndicats et partis politiques vont être autorisés en vue des élections municipales qui doivent avoir lieu en 1957. Les partis politiques congolais qui sont parrainés par ceux de Belgique et Lumumba classés pro-belge par ses discours et ses rapports avec les libéraux belges est inclus dans l'amicale libérale. En 1958, à l'occasion de l'exposition universelle de Bruxelles, première guerre après guerre et qui a un grand retentissement dans le monde, des Congolais sont invités en Belgique, dont Patrice Lumumba. Mécontent de l'image peu flatteuse et paternaliste envers le peuple congolais présentée par l'exposition, Lumumba se détache des libéraux et avec quelques compagnons politiques noue des contacts avec les cercles anticolonialistes de Bruxelles. Dès son retour au Congo, il crée avec Gaston Diomi Ndongala, Joseph Iléo etc., le mouvement national congolais en abrégé MNC à Léopoldville le 5 octobre 1958. En décembre 58, il est présent à la conférence des peuples africains à Accra, qui constitue pour lui un tournant politique essentiel. Il y rencontre entre autres l'antilo algérien Frantz Fanon, le Ghanéen Kwame Nkrumah, le Camerounais Félix Roland Moumier, qui ont notamment en commun d'insister sur les effets délétères du régionalisme, de l'ethnisme et du tribalisme, qui selon eux minent l'unité nationale et facilitent la pénétration du néocolonialisme. À l'issue de la conférence, Lumumba, désormais fermement indépendantiste, est nommé membre permanent du comité de coordination. De retour au Congo, il organise une réunion pour rendre compte de cette conférence et il y revendique l'indépendance devant plus de 10 000 personnes. Il décrit l'objectif du MNC en évoquant la liquidation du régime colonialiste et de l'exploitation de l'homme par l'homme.
Messieurs, l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique.
Mais Lumumba ne va pas laisser cette ultime provocation sans réponse. Le moment est venu de se lever et de faire entendre la voix des Congolais.
Je vous demande de faire de ce 30 juin 1960, une date illustre dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté.
En 1959, la répression s'abat sur les mouvements nationalistes. En janvier, l'interdiction d'un rassemblement de l'ABACO, association indépendantiste, fait officiellement 42 morts selon les autorités coloniales, mais plusieurs centaines selon certaines estimations. L'ABACO est dissoute et son dirigeant Joseph Kasavubu déporté en Belgique. En octobre, lors du congrès national du MNC à Stanleyville, les gendarmes tirent sur la foule faisant 30 morts et des centaines de blessés. Lumumba est arrêté quelques jours plus tard, jugé en janvier 1960 et condamné à 6 mois de prison le 21 janvier. L'arrestation et la torture de Lumumba en 1959, suivie par des émeutes exigeant sa libération, sont des moments décisifs qui exposent la répression belge et catalysent le soutien international pour l'indépendance du Congo. Débarrassé de Lumumba, qu'elle considérait comme le chef de la tendance radicale des indépendantistes, les autorités belges organisent des réunions avec des indépendantistes. Une table ronde réunissant les principaux représentants de l'opinion congolaise a lieu à Bruxelles, mais les délégués congolais refusent unanimement de siéger sans Lumumba. Celui-ci est alors libéré en toute hâte le 26 janvier pour y participer. Alors qu'il espérait profiter des tendances contradictoires d'un ensemble hétéroclite, le gouvernement belge se trouve confronté à un front uni des représentants congolais et, à la surprise de ceux-ci, accorde immédiatement et dans la plus totale improvisation au Congo l'indépendance, qui est fixée au 30 juin 1960. En cette date, son discours critique ouvertement le colonialisme et affirme la nécessité d'une indépendance obtenue par la lutte plutôt que par la concession. Des élections générales, les premières dans l'histoire du Congo, encore belge, ont lieu en mai 1960, que remporte après, avec près d'un tiers des votes, le mouvement national congolais MNC de Patrice Lumumba, le dirigeant de l'Abaco, Joseph Kasavubu, dans un souci d'unité nationale, est nommé président de la République et avalise aussitôt la nomination de Lumumba comme premier ministre, ainsi que le prescrit la nouvelle constitution qui attribue ce poste au candidat du parti ayant remporté le plus de voix. Il forme le premier gouvernement du Congo indépendant. Le 30 juin, lors de la cérémonie d'accession à l'indépendance du pays, Lumumba, qui a définitivement chassé les libéraux et s'est entouré de conseillers étrangers de gauche, prononce un discours virulent dénonçant les abus de la politique coloniale belge depuis 1885. Il prend le contre-pied de la politique modérée de ses débuts, telle qu'on peut la découvrir dans son livre « Le Congo, terre d'avenir, est-il menacé ?» écrit en 1956, où il ne revendiquait pour le Congo qu'un simple statut d'autonomie. Au lieu de s'adresser au roi des Belges présent à la cérémonie et qui venait de prononcer un discours paternaliste convenu avec le président Kasavubu, Lumumba commence son allocution par une salutation aux Congolais et Congolaises, aux combattants de l'indépendance. Son discours qui doit lui permettre de l'emporter sur Kasavubu dans l'opinion des Congolais politisés proclame vivement que l'indépendance qu'il souhaite associer à l'unité africaine marque la fin de l'exploitation et de la discrimination et le début d'une ère nouvelle de paix, de justice sociale et de liberté. Le roi des Belges se sent offensé alors qu'il se considère comme le père de l'indépendance congolaise, ayant été l'auteur en janvier 1959 d'un discours radiophonique par lequel il a été le premier belge à annoncer officiellement qu'il fallait mener le Congo belge à l'indépendance sans vaine précipitation et sans atermoiement funeste. Aussi, Baudouin veut-il se retirer et regagner Bruxelles? Mais le premier ministre belge Gaston Ekens parvient à l'en dissuader et le soir même, lors d'un banquet réunissant hommes politiques congolais et belges, Patrice Lumumba s'efforce de préciser ses paroles, prononçant un discours se voulant lénifiant dans lequel il évoque un avenir de coopération belgo-congolaise. En réaction à une décolonisation envisagée sur une longue période par la Belgique, Lumumba propose une transition vers l'indépendance rapide et complète, contrastant fortement avec les plans belges qui incluaient un plan de 30 ans pour une décolonisation graduelle. Le contraste entre les visions de Lumumba et de l'État belge se manifeste de manière évidente lors des discours d'indépendance, tandis que le roi Baudouin Premier évoque une transition pacifique et reconnaissante envers l'œuvre belge. Lumumba dépeint une lutte pour l'émancipation face à une oppression coloniale prolongée. Nous avons connu le travail harassant exigé en échange de salaires qui ne nous permettent ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou de nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devons subir matin, midi, soir parce que nous étions des nègres. Nous avons connu les souffrances atroces, les relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort même. Qui oubliera enfin les fusillades? Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation? Nous avons souffert dans notre corps et dans notre cœur l'oppression colonialiste. Nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. Extrait du discours de Patrice Lumumba. Après avoir entendu tout cela, nous allons écouter l'avis de l'expert. Oui, bonjour Jean-Claude.
Et bonjour Marie-Noël, j'espère que tu vas bien. Concernant la vie et la mort de Patrice Lumumba, je voudrais dans un premier temps dire qui l'a tué et pourquoi il a été assassiné. Dans un deuxième temps, je parlerai de pourquoi il peut être considéré comme un héros, en quoi il peut être une source d'inspiration et un modèle pour la jeunesse africaine aujourd'hui. Et puis, troisièmement, je parlerai de sa famille, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, surtout ses enfants. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, etc., etc. Commençons par le premier point. Qui a tué Patrice Lumumba et pourquoi il a été assassiné? Avant de répondre à cette double question, je voudrais faire deux petites remarques. Premièrement, il faut savoir que Patrice Lumumba, son vrai nom, c'est Elias Okit Asombo. La deuxième remarque, c'est qu'il a connu une existence brève, puisqu'il est mort à 36 ans, le 17 janvier 61. Qui l'a tué et pourquoi a-t-il été assassiné? La plupart des historiens sont unanimes à dire qu'il a été tué par le bloc occidental. Alors, je fais remarquer que à cette époque-là, il y avait une guerre froide. Hein, la guerre froide a commencé à la fin, n'est-ce pas, de 1945 et s'est terminée avec la chute du mur de Berlin en 1989. Donc, à cette époque-là, le monde est divisé en deux blocs. Il y a le bloc occidental autour des États-Unis d'Amérique et le bloc soviétique qui comprend les pays de l'Europe centrale et orientale hein, comme la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, etc. Et donc qui est dirigé, hein, qui est amené par Moscou, hein, par l'Union des républiques socialistes soviétiques. Voilà. Donc nous sommes dans ce contexte-là. Et donc le Zaïre à l'époque, non plutôt le Congo, ça s'appelle encore le Congo était dans le camp occidental. Voilà. Et donc, Lumumba a été tué par le bloc occidental, c'est-à-dire Paris, Washington, Bruxelles et l'ONU. Et l'ONU, malheureusement, hein, parce qu'on nous fait croire que l'ONU est une organisation neutre hein, et pour la paix, mais c'est faux. Parce que déjà en 61, je crois, ou en 60, Frantz Fanon faisait remarquer que l'ONU n'a jamais été capable de régler, n'est-ce pas, un des problèmes qui se pose à la conscience, n'est-ce pas, de l'humanité. Vous voyez. Lumumba a été tué par ce trio-là, Paris, Washington et Bruxelles. Alors pourquoi il a été tué? Il a été tué parce que la première raison, c'est le discours qu'il a prononcé le 30 juin 1960. Et en réponse à celui, n'est-ce pas, de Baudouin, le roi belge. Alors qu'est-ce que Baudouin avait dit ce jour-là? Baudouin, ce jour-là, il fait l'éloge de la colonisation belge. Hein, il magnifie, n'est-ce pas, le travail fait par les colons belges. Hein, il parle même de grande œuvre. Vous voyez, et aujourd'hui on voit ça avec, n'est-ce pas, beaucoup de Français qui pensent que la France a fait de bonnes choses, elle a construit des routes, des écoles, des hôpitaux, des voies, n'est-ce pas, ferroviaires, etc. Malheureusement pour les Français, il a fallu un homme comme Aimé Césaire pour dire le contraire, pour dire que la colonisation ne fut pas civilisation mais barbarie, qu'elle fut chosification et exploitation de l'homme noir. Ouais, il dit ça dans son ouvrage majeur, magistral, Discours sur le colonialisme, publié par Présence africaine en 1950. Donc, Baudouin magnifie la colonisation belge. Et Lumumba, qui prend la parole après lui, affirme que pendant la colonisation, les Congolais avaient plutôt connu les insultes, les coups. Hein, les coups de fouet, la bastonnade matin, midi et soir, parce qu'ils étaient des nègres. Et il dit aussi dans ce discours que la loi n'était pas toujours la même selon qu'on était blanc ou noir. Et enfin, il dit, c'est par la lutte que l'indépendance du Congo a été conquise. Alors, les historiens disent que, en prononçant ce discours-là, il avait signé son arrêt de mort, hein, parce que c'était comme une gifle. C'était un affront. C'était un affront. Et c'est comme ça que d'ailleurs les Occidentaux ont perçu ça. Ils ont dit, mais c'est pas possible qu'un nègre nous parle comme ça. Ouais. Donc, il y a ce discours-là qui est donc une des raisons de son assassinat. La deuxième raison, c'est son amitié avec les révolutionnaires du continent, qui à l'époque étaient Ahmed Sékou Touré de la Guinée, Kwame Nkrumah du Ghana et Abdel Gamal Abdel Nasser de l'Égypte. Ouais, c'était des révolutionnaires et Nkrumah était ami. Il avait noué, n'est-ce pas, des liens d'amitié avec ces trois révolutionnaires-là. Et la troisième raison, c'est que Lumumba était pour l'unité du Congo. Il ne voulait pas que, par exemple, la province du Katanga, qui est une province riche en mines, il ne voulait pas qu'elle se sépare du Congo. Il faut savoir qu'à cette époque déjà, donc il y a Moïse Tshombe et d'autres Katangais qui voulaient créer leur pays. Hein, ils voulaient, n'est-ce pas, se séparer du reste du Congo. Et Lumumba était contre. Par contre, la Belgique était favorable à la sécession katangaise. Parce que, justement, elle voulait exploiter les mines du Katanga. Un peu comme la France a fait récemment avec, ou bien voulait faire avec le Mali. Hein, donc, la France, tout en soutenant, n'est-ce pas, le gouvernement malien, la France faisait ami-ami avec les Touaregs de Kidal. Parce qu'à Kidal, il y a beaucoup de richesses, vous voyez. Bon, donc, lui, il était contre cette sécession-là. Et malheureusement, l'ONU ne l'a pas aidé comme il le souhaitait. Alors, il s'est rapproché, n'est-ce pas, de Moscou. Hein, il voulait que Moscou l'aide à combattre les sécessionnistes katangais. Voilà, donc tout ça là a poussé l'Occident à dire que, eh bien, il est temps que ce monsieur-là, il est temps qu'il dégage. Et donc c'est la raison, ce sont les raisons pour lesquelles Lumumba a été assassiné le 17 janvier 61. Nkrumah a eu 6 enfants avec Pauline, mais avant, n'est-ce pas, avant d'être assassiné, il a quand même pris le soin d'envoyer sa famille en Égypte. Et donc, ses enfants ont grandi là-bas. Après, ils ont fait des études ici ou là dans le monde. Il a, je crois, au moins 3 enfants, si je ne me trompe pas, qui sont en politique. Il y a par exemple François. François avait étudié en Hongrie. Et il a créé. Il est rentré au Congo dans les années 90. À la faveur, n'est-ce pas, du retour du multipartisme, il a créé un parti lumumbiste qui essaie de défendre les idées de son père, Patrice Lumumba. Il a une fille, Patrice Lumumba, qui s'appelle Julienne, et Julienne a été ministre sous Laurent Désiré Kabila. Et puis il a un autre fils, je crois, qui est en politique. Voilà. Et donc voilà un peu l'histoire de sa famille. Sa femme, Pauline, est décédée en 2014. En 2014. Et elle ne s'est jamais remariée. Voilà, donc, pour conclure, je dirais que Lumumba est un grand homme. Et c'est un grand homme, il n'a pas vécu longtemps, 36 ans, un peu comme le Christ. Hein. Bon, le Christ, Jésus, on dit qu'il a vécu 33 ans. Mais remarquez très bien, les grands hommes meurent comme ça vite. Hein. Mais ce qui est important, c'est que, en fait, ce n'est pas de vivre 90 ans ou 30 ans, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez laissé? Hein, les Américains, les Anglais parlent de legacy, l'héritage. Quel héritage vous laissez au monde entier? Et l'héritage que Nkrumah, que Lumumba a laissé est immense. La preuve, c'est que après sa mort, on continue aujourd'hui encore de parler de lui. Et on parle de lui en bien, vous voyez. Donc c'est ça qui est le plus important. Parce qu'on peut vivre 90 ans dans la lâcheté, dans l'indignité. Lui n'était pas indigne, il n'était pas lâche, c'était un homme courageux. Vous voyez. Donc ça aussi c'est un truc qu'il faut savoir. Hein. Il y a des gens, bon, qui disent, voilà, si tu veux vivre longtemps, il faut te taire, il faut rien dire, hein. Il faut pas dénoncer l'injustice. Oui, mais tu vas mourir, je vais dire à 100 ans, mais qu'est-ce que tu auras laissé à l'humanité? C'est ça. Hein? Bon, Lumumba, lui, il est mort à 36 ans. Mais aujourd'hui encore, on parle de lui. Parce qu'il avait un franc-parler, parce qu'il était courageux, parce qu'il aimait son pays, parce qu'il était contre le colonialisme. Oui, et la troisième raison, c'est que Lumumba était pour l'unité du Congo. Or, au début de l'indépendance, le Katanga voulait se séparer, n'est-ce pas, du reste du pays. Le Katanga voulait son indépendance à l'intérieur du Congo. Il faut savoir que le Katanga est une riche province minière. Et la Belgique était favorable à l'indépendance du Katanga. Parce que, justement, elle voulait exploiter les mines du Katanga. Mais Lumumba était contre. Il était contre la partition du pays. Il était contre la sécession. Et qu'est-ce qui va se passer? Lui, donc, il va demander de l'aide à l'ONU pour mater la rébellion, la sécession. Mais il ne reçoit pas l'aide, n'est-ce pas, qu'il attend de l'ONU. On lui apporte une aide vraiment très, 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 très limitée. Alors que ses adversaires, c'est-à-dire les Katangais, hein, la rébellion katangaise menée par Moïse Tshombe, elle est soutenue par l'Occident. L'Occident lui fournit, n'est-ce pas, des moyens militaires. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner vers Moscou. Il va se tourner vers Moscou, et ça, on va pas lui pardonner ça, parce que je rappelle que nous sommes en période de guerre froide, et donc le bloc occidental, c'est-à-dire Washington, Paris, Bruxelles, ne voulait pas que le Congo bascule dans le camp soviétique. Donc toutes ces raisons, voilà, mises ensemble, expliquent la mort, l'assassinat de Lumumba. Donc voilà un peu pour la première question. Donc qui l'a tué et pourquoi il a été assassiné. La deuxième chose, c'est pourquoi Lumumba peut être considéré comme un héros. En quoi peut-il être une source d'inspiration et un modèle pour la jeunesse africaine? Alors pour répondre à cette question, je voudrais revenir sur sa dernière lettre à sa femme, à son épouse Pauline. Il faut savoir que Lumumba, quand il a été arrêté, il a été transféré au Katanga. Les Belges ont demandé qu'il soit transféré au Katanga, chez Moïse Tshombe, donc chez ses ennemis. Voilà. C'est là-bas qu'il est emprisonné. Et en prison, il écrit une lettre assez émouvante à son épouse Pauline. Je ne vais pas la citer complètement, je la cite d'ailleurs, je vais citer quelques extraits de cette lettre, et je les cite de mémoire. Il dit par exemple, il dit deux choses importantes dans cette lettre. Il dit, mort ou vivant, libre ou en prison, ce n'est pas ma personne qui compte. Ce qui compte, c'est le Congo. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui était prêt à s'effacer. À s'effacer au profit de son pays. Vous voyez, c'était pas sa petite personne. Il n'était pas attaché à sa petite personne. Lui, c'était le Congo. Et un Congo libre. Un Congo libre, un Congo prospère. C'est ça qui l'intéressait. Et c'est en cela que, à mon avis, il peut être un modèle pour la jeunesse africaine et pour nous tous. Vous voyez, souvent les gens pensent à eux-mêmes, hein, à leur petite personne, à leur famille, hein, à leur clan, à leur ethnie. Lui, Lumumba n'était pas dans cet esprit-là. C'était vraiment un nationaliste, un patriote. La deuxième chose que j'ai beaucoup aimé dans cette lettre à Pauline, il dit « L'Afrique écrira sa propre histoire ». Il dit « Un temps viendra où l'Afrique écrira sa propre histoire, une histoire pleine de gloire et de dignité ». Et ça, c'est important parce que je crois que c'est un proverbe africain qui a été repris par Chinua Achebe dans un de ses livres, hein, « Things fall apart »,« Le monde s'effondre ». Chinua Achebe dit, donc en reprenant ce proverbe africain, que quand les chasseurs, n'est-ce pas, écrivent l'histoire de la chasse, eh bien forcément, ils vont glorifier, n'est-ce pas, les chasseurs. Et donc c'est ce que nous avons vécu, nous les Africains. Et notre histoire jusque-là a été racontée par les colons, ceux qui nous ont envahis, ceux qui nous ont chosifiés, pour employer le terme de Césaire. Et donc, quand ils racontent cette histoire, c'est évidemment à leur avantage. Vous voyez? Et voilà. Donc, il est important que l'Afrique écrive elle-même son histoire. Il faut que les historiens africains racontent, n'est-ce pas, ce que nous avons vécu, l'esclavage, la colonisation et aujourd'hui le néocolonialisme. Et ça a commencé puisque nous avons des historiens comme Eli Kiambokolo, hein, comme le Guinéen Feu Ibrahima Babakaké, hein, qui encore aujourd'hui nous avons, je crois, Hamza Boukari, un Burkinabé qui est à Paris, que j'ai failli rencontrer, malheureusement il n'était pas disponible. Ouais, donc aujourd'hui les Africains, on a des Africains qui commencent à raconter l'histoire de l'Afrique, qui est une histoire de souffrance, une histoire, n'est-ce pas, de mépris, etc. Ouais, donc Lumumba, donc déjà il avait dit ça. Il disait voilà, un jour viendra où l'Afrique écrira sa propre histoire. Voilà, c'est quelqu'un qui donc était patriote, quelqu'un qui avait un franc parler, mais quelqu'un qui est aussi panafricain, puisque j'ai déjà dit que il avait, n'est-ce pas, pour amis, hein, les révolutionnaires africains, Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Gamal, l'Égyptien Gamal Abdel Nasser, vous voyez. Donc, c'est vrai, il était patriote, mais en même temps, il était ouvert à l'Afrique. Ouais, il n'était pas enfermé dans son Congo. Et je pense que c'est important. Nous avons tendance aujourd'hui à vivre repliés sur nos petits pays, nos micro-états. Je crois que c'est pas ça qui va nous sauver. Hein, Nkrumah disait que c'est l'unité, n'est-ce pas, Africa must unite. C'est l'Afrique, c'est l'unité, pardon, qui va sauver l'Afrique, vous voyez. Et donc, il faut que les Africains d'aujourd'hui soient ouverts, hein, tout en aimant leur pays, il faut qu'ils soient ouverts au reste du continent. Alors, je voudrais maintenant terminer par sa famille. Lumumba a eu 6 enfants.
Oui, Marie-Noël, je voudrais ajouter ceci à propos de Lumumba. Quand on regarde le temps que Lumumba a passé au pouvoir, c'est vraiment insignifiant. Hein. Je crois, si je ne m'abuse, il a passé peut-être 3 mois. Mobutu a eu plus de longévité que lui au pouvoir. Mais aujourd'hui, de qui se souvient-on? Se souvient de Lumumba. Mobutu, d'abord, il est mort misérablement. Il est mort loin de son pays, au Maroc. C'est là-bas qu'il a été enterré. Et puis, Mobutu, il est sorti de l'histoire, alors que Lumumba y est entré par la grande porte. Partout, on parle de Lumumba. Je crois même en Russie, il y a une université qui porte son nom, vous voyez. Et Mobutu a été oublié. Je ne pense pas aujourd'hui que des Congolais souhaiteraient donner, n'est-ce pas, le nom de Mobutu à leurs enfants. Donc c'est quelqu'un qui est sorti de l'histoire, hein, qui a été jeté dans, n'est-ce pas, les poubelles de l'histoire, parce qu'il a été un traître. Parce que il est le prototype de ces Africains-là qui se laissent utiliser par les Blancs pour faire du mal à leurs frères africains. Hein, c'est vraiment, c'est un traître. Il a été un traître. Voilà, il n'a rien foutu pour son pays. Hein, voilà. Et donc, aujourd'hui, personne ne parle de lui. Mobutu a été oublié, alors que Lumumba est comment on dit ça, il est, on parle de lui, il est célèbre. Voilà. Et son nom est partout. Voilà, parce que il aimait son pays, parce qu'il était courageux, parce qu'il était contre, hein, le colonialisme.
Madame, monsieur, c'était tout ce que nous avons préparé pour vous ce soir dans l'émission Héros et Héroïnes Africains. Au micro de la présentation, j'étais Marie-Noël et Josué Nabral assurait la technique. Nous avons parlé ici, vous avez écouté là-bas. Si vous avez aimé, venez nous le dire sur www.radiointégration.com. Nous vous disons au revoir et à bientôt.
Suivez Radio Intégration sur Facebook,
X,
Instagram,
YouTube.
Les héros nous apportent l'espoir, le rêve, la force. Chacun de nous a besoin de héros pour vivre, l'enfant pour se construire, l'adulte pour se réparer. La vie est un champ de bataille où naissent les héros qui meurent pour que l'on vive dans un monde de récits merveilleux et terrifiants. Leur épopée me raconte qu'il est possible de s'élever au-dessus de la fadeur des jours et du malheur de vivre. Nos héros nous montrent le chemin tous les jours, espace 21h15, 22h, sur le plateau de Radio Intégration.